Première, il est 7h.
Le journal Éric Guevard-Affré.
Les coups viennent de Suisse. Nouvelle révélation dans l'affaire Bettencourt. La femme de l'ancien ministre du budget, Éric Woerth, était presque à demeure à Genève depuis 2008. Information de la Tribune de Genève, la pression devient très lourde sur le gouvernement français. Elle a franchi le pas depuis le 1er juillet. La Suède vient de mettre un terme à la conscription obligatoire.
Fini l'armée de milice dans ce pays neutre, si proche de la Suisse par son mode de fonctionnement. Et la Suisse, justement, me direz-vous, n'est-il pas temps d'abolir aussi en Suisse l'obligation de servir ? Invité du journal dans une demi-heure, le colonel Denis Froidevaux, vice-président de la Société Suisse des Officiers. Le réseau d'espions russes démantelé cette semaine aux États-Unis, ou les bonnes vieilles méthodes héritées de la guerre froide. Ce sera la chronique passé-présent de Pierre Bavaud qui nous plongera dans l'ambiance des films d'espionnage.
Il voulait défendre l'interdiction des minarets lui-même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien c'est non, l'UDC Lucas Reimann a été débouté.
36 histoires du Tour de France, du sexe, des mensonges, des trucages, la vérité rétablie. C'est le titre du dernier ouvrage du docteur Jean-Pierre de Mondenard, grand pourfendeur du dopage. À la veille du départ du Tour, il est notre invité tout à l'heure. Pour lui, rien n'a changé depuis l'affaire Festina en 1998.
Au sommaire également, toute l'Afrique unie derrière le Ghana, engagée ce soir dans un quart de finale face à l'Uruguay, la Coupe du Monde de football. Et puis nous irons à Singapour, où on a tenté de faire avancer l'intelligence artificielle par le football. Justement. Le fisc français a remboursé l'équivalent de 41 millions de francs à Liliane Bettencourt en mars 2008 grâce au bouclier fiscal, information révélée hier par le site Mediapart. Le ministre du budget de l'époque, Éric Woerth, au cœur de la polémique, a forcément donné son aval, selon l'auteur de l'article. Hier, le procès de l'affaire Bettencourt a été renvoyé pour qu'une enquête puisse être menée sur les écoutes, cette fois captées dans le bureau de l'héritière de L'Oréal. Ce sont ces écoutes qui ont déclenché l'affaire d'État Éric Woerth, soupçonné de conflit d'intérêts. Et dernier épisode en date, ce matin, la Tribune de Genève révèle que l'épouse du ministre, proche de la gestion de la fortune Bettencourt, était depuis 2008 presque à demeure à Genève. Charline Vandenacker.
L'affaire Bettencourt a commencé à éclabousser le ministre Éric Woerth lors de la révélation des enregistrements pirates qui ont capté les conversations entre Liliane Bettencourt et ses conseillers. Il y est question d'un chèque signé en faveur d'Éric Woerth, alors ministre du budget et trésorier de l'UMP, ainsi que de comptes en Suisse, alors que l'épouse du ministre gérait la fortune de l'héritière de L'Oréal. Ce matin, dans la Tribune de Genève, un banquier affirme que Laurence Woerth, l'épouse du ministre, a été très souvent vue à Genève dans le family office de Liliane Bettencourt, une sorte de banque privée pour très grande fortune. Le ministre du budget pouvait-il ignorer l'évasion fiscale alors que sa femme se rendait souvent à Genève ? Voilà une nouvelle révélation qui fragilise davantage Éric Woerth au moment où le site Mediapart soulève que le fisc a remboursé 40 millions de francs à Liliane Bettencourt au titre du bouclier fiscal. Charline Vandenacker, Radio Suisse Romande, Paris.
Les services de renseignement suisses pourront continuer de collecter des données importantes pour la sécurité du pays. Rien ne changera avant cet automne. Le Conseil fédéral veut prendre le temps de la réflexion après les critiques de la délégation des commissions de gestion sur le dysfonctionnement de ces services. Valérie Huert.
Les services secrets pourront donc continuer à collecter des données sur tout un chacun si la sécurité du pays l'exige. Le spectre de l'État fouineur planera ainsi en Suisse jusqu'à l'automne. En effet, la ministre de la Justice, Evelyne Widmer-Schlumpf, n'a pour l'heure introduit aucun blocage dans la récolte de ces données. Mais d'ici octobre, les choses devraient bouger. Le travail des cantons en matière de sécurité de l'État devrait être amélioré et le droit à l'information modifié. Par exemple, vous êtes curieux de savoir si les services de renseignement récoltent des données sur vous? Eh bien, à l'avenir, vous aurez le droit de le savoir. Autre changement, une loi sur la sûreté intérieure révisée sera soumise au Parlement. Une première mouture prévoyant d'importantes intrusions dans la sphère privée comme des écoutes téléphoniques, la surveillance du courrier ou des emails n'a pas passé la rampe. Dans cette deuxième version, les droits fondamentaux devraient être mieux respectés.
La Suède a abandonné hier le service militaire obligatoire au profit d'une armée professionnelle.
Et c'est une tendance nette depuis 20 ans en Europe où plus de la moitié des pays se sont convertis. La Suisse fait partie de ceux qui tiennent encore à leurs troupes de conscrits, mais elle n'échappera pas au débat puisque le groupement pour une Suisse sans armée a lancé une initiative. Christelle Demangeau.
Abroger le service militaire obligatoire, c'est le combat qu'entame le GSSA dès mardi prochain, puisqu'il se met en chasse des 100 000 signatures nécessaires. La fin de l'obligation de servir en Suède intervient donc à point nommé, surtout que c'est le premier pays neutre à franchir ce pas. Mais pas question de troquer la conscription contre une armée professionnelle, comme ce sera le cas en Suède. D'ailleurs, la constitution suisse l'interdit. Le groupement pour une Suisse sans armée vise plutôt une armée de milices volontaires. Conséquence, les effectifs de la troupe seront réduits aujourd'hui et c'est souhaitable pour Frédéric Durand, secrétaire romand du GSSA.
Un des problèmes majeurs de l'armée, c'est qu'il y a trop de monde et on ne sait plus comment les occuper. Donc on les envoie, par exemple, à Montreux pour sonner de la francophonie. Des fois, ils font la circulation à d'autres événements. Ça, c'est un des problèmes. On n'arrive pas à tous bien les équiper. Alors, justement, réduisons ces effectifs qui ne correspondent plus à rien, puisque la Suisse n'est pas menacée sur son territoire militairement. Et c'est évident que cette initiative, elle permettra ça.
Et en arrière-fond de ce débat sur l'obligation de servir, il y a la question de la mission de l'armée et celle de sa dimension, qui devrait être débroussaillée en septembre dans le très attendu rapport sur l'armée. La troupe sera vraisemblablement soumise à une cure d'amaigrissement en raison de l'évolution démographique et des pressions économiques. Mais pas question pour le Conseil fédéral de supprimer le principe du service obligatoire. Il y tient. Pas sûr cependant qu'il soit suivi, car l'idée fait son chemin, même à droite.
Et on l'a dit, dans 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, nous recevons le colonel Denis Froidevaux, vice-président de la Société suisse des officiers. A priori, bon, lui est un réformateur en ce qui concerne l'armée, mais il n'est pas favorable à la fin de l'obligation de servir.
Le consultant en informatique engagé par l'armée en 2009 a coûté 500 000 francs, mais il a permis d'économiser plus du double. Voilà la réponse du chef de l'armée, André Blattmann, aux révélations de la TSR sur le mandat de ce conseiller externe, mandat qui s'est terminé le 30 juin, avant-hier. La police vaudoise a arrêté hier les quatre mineurs qui avaient grièvement blessé un sexagénaire samedi soir à Villeneuve. Ils avaient été appréhendés une première fois mais remis à leurs parents car à ce moment-là, l'ampleur des blessures de la victime était sous-estimée. Cette fois, ces jeunes de 16 à 17 ans ont été placés en détention préventive. Ils ont reconnu les faits ainsi que des actes de vandalisme. Ils voulaient défendre l'interdiction des minarets de vive voix devant la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la décision du peuple suisse. Eh bien, le conseiller national UDC, Lucas Reimann, n'a pas été entendu. Selon nos informations, la Cour vient de rejeter sa demande de pouvoir intervenir comme tierce partie. Pascal Jeannerat.
Puisque le Conseil fédéral était contre l'interdiction de construire des minarets, il fallait qu'une voix puisse défendre la décision du peuple suisse face au recours déposé par plusieurs associations musulmanes. Et Lucas Reimann proposait que cette voix soit la sienne, en allemand. Eh bien, la Cour en a décidé autrement, comme en atteste une lettre datée du 22 juin que nous nous sommes procurés, informant les parties du rejet des demandes faites par le conseiller national UDC. Lucas Reimann, qui ne perd pas espoir pour autant.
Nous voulons défendre la votation populaire, donner une argumentation, expliquer la directe démocratie et expliquer les arguments de la majorité du peuple. Il y a un article dans la CEDH qui dit que tous les partis qui sont involvés ont le droit de donner les arguments, d'intervenir et j'ai des espoirs d'être accepté.
Alors par écrit peut-être, mais comme tierce partie de plein droit, c'est non, a tranché le président de la chambre compétente auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Rappelons que celle-ci est d'ores et déjà entrée en matière sur plusieurs recours contre l'interdiction de construire des minarets et que c'est la position du Conseil fédéral qu'elle attend désormais.
Wall Street a terminé hier sa sixième séance d'affilée à la baisse.
Les bourses asiatiques se reprennent à l'ouverture ce matin, mais elles aussi s'affichaient à la baisse depuis plusieurs jours. La tendance s'observe sur tous les marchés depuis le début de la semaine. Les investisseurs manifestent leurs inquiétudes face à un retour de la récession, alertés par plusieurs signaux. Des indicateurs montrent que la croissance en Chine, aux États-Unis et en Europe ralentit. Aujourd'hui, les marchés attendront fébrilement les chiffres du chômage américain qui pourraient souffrir des conséquences de la marée noire dans le golfe du Mexique. Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, répond à Esther Coco.
Ça peut avoir un impact sur les emplois de ces États, puisqu'on a vu une activité industrielle, une activité manufacturière et puis d'autres activités de services qui étaient momentanément suspendues, même si effectivement BP a embauché entre guillemets des emplois temporaires pour aider à essayer de colmater les événements liés à cette affaire. Mais bien entendu, on peut avoir des éléments régionaux. Ceci dit, là, on est sur des facteurs saisonniers qui peuvent être compensés. Donc le marché va, je l'espère, peut-être essayer quand même de regarder un petit peu plus la tendance. Et là encore, les chiffres de l'emploi sont des chiffres très volatiles. C'est d'ailleurs une statistique qui est amenée à être révisée assez régulièrement aux États-Unis. Donc le premier chiffre tel qu'il tombe n'est malheureusement des fois pas, quand on regarde sur l'histoire, le meilleur indicateur de la véritable tendance telle qu'elle s'est dégagée une fois corrigée. Mais néanmoins, les marchés réagissent sur le chiffre tel qu'il tombe.
L'un des suspects arrêtés aux États-Unis pour espionnage a avoué, oui, il travaillait bel et bien pour la Russie, pays auquel il a juré fidélité selon des documents judiciaires américains publiés hier. Toyota replonge dans ses mauvais souvenirs et rappelle 270 000 voitures à travers le monde à cause d'un problème de moteur. Ce sont les marques Lexus et Crown qui sont touchées, les plus luxueuses. Nouvelle source d'embarras pour le premier constructeur automobile du monde qui cherche pourtant à mieux contrôler la qualité de ses véhicules. George Baumgartner.
Toyota considère ses modèles Lexus comme supérieurs à tout ce que Mercedes produit de mieux. Mais le voilà forcé de rappeler ces 7 modèles Lexus à cause d'un défaut de ressort de soupape, défaut qui provoque du bruit, le ralentissement ou dans le pire des cas, l'arrêt du moteur. À Toyota City, c'est le choc. Le constructeur a déjà dû rappeler plus de 10 millions de véhicules dans le monde, la majorité aux États-Unis, mais ses ingénieurs étaient persuadés jusqu'ici que les modèles Lexus et Crown de très haute gamme seraient épargnés. Toyota vient d'ouvrir en Europe et aux États-Unis des centres de contrôle de la qualité. Ils sont dirigés par des Européens, des Américains. Ils sont chargés de faire connaître rapidement la maison mère et de réparer rapidement tout problème. Ces déboires à répétition n'ont pas empêché Toyota de dégager un bénéfice net de plus de 2 milliards de francs lors de la dernière année fiscale qui s'est terminée à la fin mars. Georges Angartner, Radio Suisse Romande, Tokyo.
Avis aux amateurs, la Coupe du Monde de football reprend aujourd'hui avec les quarts de finale. À 16h, Brésil-Pays-Bas et à 20h30, le Ghana affrontera l'Uruguay. On pourrait aussi dire l'Afrique affrontera l'Uruguay parce que tout le continent a des raisons de vibrer. Si le Ghana se qualifie pour les demi-finales, ce sera une première pour un pays africain décidément modèle, Patrick Deletro.
Même si 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, le Ghana fait office de modèle démocratique et de développement économique. Dans une Afrique où la stabilité politique est aléatoire, le pays n'a pas vécu de tentative de coup d'État depuis 1992 et les élections y sont libres. Au niveau du football, c'est également la stabilité qui règne dans la fédération, qui a une ligne et qui s'y tient. Deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde, huitième de finale en 2006, quart de finale cette année. Les Black Stars, c'est le nom de l'équipe du Ghana, comptent sur de jeunes joueurs champions du monde des moins de 20 ans pour faire trembler les grandes nations du football mondial. Et pour Samuel Incom, qui joue à Bâle, c'est l'union qui fait la force et Dieu.
On est plus qu'une famille. Vous pouvez voir les plus anciens et les plus jeunes joueurs rire et plaisanter ensemble. Et si vous êtes aussi unis, vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez. C'est ce qui nous aidera à remporter encore des matchs et je crois qu'on va continuer comme ça. Je l'ai dit, je le redis, nous pouvons soulever ce trophée, pas de problème, si Dieu le veut.
Très motivés, ne doutant de rien, les joueurs ghanéens peuvent accrocher l'Uruguay ce soir et en cas de victoire, affronter alors les Pays-Bas ou le Brésil, deux adversaires qui ne sont pas à leur portée, à moins que le soutien réel d'un continent entier ne leur donne des ailes. Patrick Deletro, Radio Suisse Romande, Johannesburg.
Quant à l'équipe de Suisse, là on parle plus de Coupe du Monde, elle disputera un match amical face à l'Australie le 3 septembre à Saint-Gall à 20h15. Il s'agira d'un dernier test avant le début des qualifications pour l'Euro 2012, 4 jours plus tard à Bâle face à l'Angleterre. Sans doute vous l'ignorez, une Coupe du Monde de football se déroulait à Singapour.
Oui, je l'ignorais.
Elle vient de se terminer. Une Coupe du Monde un peu spéciale puisque ce sont des intelligences artificielles qui se sont affrontées. En d'autres termes, des robots programmés par des équipes universitaires venues de toute la planète avec un espoir, faire avancer l'intelligence artificielle précisément. Jean-Olivier Pain.
L'objectif ambitieux de cette Robocop Soccer veut des robots capables de battre une équipe humaine en 2050. En attendant, la science robotique se fractionne en de multiples catégories comme micro-robots, humanoïdes, sauvetage ou robots domestiques. Spécialité de l'équipe suisse, Jean-Daniel Décimo, professeur à la HEI GVD à Yverdon.
L'une des épreuves s'appelle supermarché et là on va dans un vrai supermarché avec nos robots. Le guide du robot montre quels objets sont souhaités puis ensuite revenant à la porte d'entrée, on voit le robot seul prendre les objets souhaités. Un autre test vise un service au restaurant. Donc, une des équipes présentait la situation où le propriétaire du restaurant mandate le robot pour aller placer les gens qui sont annoncés à la place réservée.
Par ailleurs, les équipes disposent d'un robot appelé Nao qu'il s'agit de programmer au mieux.
Une étape majeure, c'est sans doute la disponibilité d'un humanoïde, principalement français d'ailleurs, Nao comme médiateur entre le monde de l'humain et le monde des machines. L'humain s'adresse à Nao avec des mains, avec des mouvements de tête, avec la parole. Et de l'autre côté, Nao, qui est une machine, a la même facilité de communication avec les autres machines. L'humanoïde paraît être le très bon médiateur.
Reste à savoir si la Robocop tiendra ses promesses et fera de la machine le meilleur ami des stades de foot.
Non, pour l'instant, c'est l'homme le meilleur ami des stades de foot.
Et là, vous vous êtes là. Merci beaucoup, Éric Guevarafré. Dans un instant, Pascal Bernheim, puis le docteur Jean-Pierre de Mondenard, grand spécialiste du dopage, grand spécialiste du Tour de France. Il sera avec nous. Le Tour qui commence demain, samedi, prologue à Rotterdam. Soleil très généreux partout aujourd'hui. Les cumulus estivaux vont gonfler cet après-midi sur les sommets. Ils donneront quelques orages, des orages stationnaires parce que les vents sont faibles, donc potentiellement violents. Température maximale de 29 à 32 degrés.
La bourse de Tokyo était en légère hausse ce matin. À la mi-séance, l'indice Nikkei gagne 0,19%.